Donc, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse 4, versets 17 à 26. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, il forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Alors, Seigneur, on étudie ta parole, elle est tellement profonde et tellement riche. Plus on l'étudie, plus on se rend compte de ce fait. Et Seigneur, elle est pleine de leçons et tu nous l'as donnée pour nous instruire et aussi pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, elle est remplie de principes, elle est remplie de leçons à apprendre que nous devons mettre en pratique dans notre vie de tous les jours pour devenir meilleurs et pour t'apporter honneur et gloire. Alors, on te prie ce matin que ton esprit nous éclaire, nous guide, élimine nos intelligences et nous fasse retenir aussi son précieux trésor, les leçons qu'elle contient pour nous transformer, pour nous faire ressembler davantage à notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, on te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on avait commencé cette leçon-là la semaine dernière, mais on va faire une révision, parce qu'on avait presque passé toute la leçon sur le fait, sur la question de qui était la femme de Caïn. On va revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est important. Parce qu'on se rend compte que quand on lit la Bible, ou bien non, qu'on a affaire avec un nouveau croyant, souvent, il va arriver, il va se buter ces questions-là, et on se devrait d'être capable de répondre intelligemment à ces questions-là. Alors, on se souvient, dans Genèse 3, 15, on va juste reculer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, j'ai intitulé la leçon « Les deux lignées se perpétuent, la lignée impie » et la lignée pieuse. On va voir que dans le fond, l'ensemble du chapitre, à partir du verset 17 au verset 26, ça se résume autour de ça. Les deux lignées, celles qui avaient été annoncées dans Genèse 3.15, ils se perpétuent. Alors, on va regarder comment la lignée impie se comporte et comment la lignée pieuse se comporte. Alors, dans Genèse 3.15, quand l'Éternel juge le serpent, il lui dit... Il lui fait, dans le fond, une prophétie. Il fait une prophétie qu'il va connaître la défaite et qu'il va aussi, il prophétise l'arrivée future du Messie. Alors, il dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. » Alors, la postérité de la femme, les Écritures nous disent que c'est le Messie, Jésus-Christ, c'est déterminé de façon claire dans le livre de Galates, sa postérité, c'est la postérité de Christ. Alors, il dit, je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité, alors la postérité du serpent, et sa postérité, la postérité de la femme qui est Christ, il dit, celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Alors, c'est vraiment l'idée que la victoire complète va venir par le Messie qui va t'écraser la tête, mais que la venue de Christ sur terre va, et comme ça dit dans le reste, et tu lui blesseras le talon. Alors, le serpent, autrement dit Satan, quand Jésus est venu sur terre, il a comme blessé le talon. Autrement dit, c'est vraiment l'image qu'il a provoquer beaucoup de douleurs chez le Messie de différentes façons. Mais en tout cas, c'était une grande prophétie. Mais l'idée à retenir de Genèse 3:15, c'est vraiment les deux postérités. Autrement dit, aujourd'hui, comme de tout temps, depuis la chute, il y a toujours eu juste deux postérités. Ou on fait partie de la postérité du serpent, on est des êtres non régénérés, non sauvés, condamnés dans nos péchés, perdus, ou on fait partie de la postérité, on appartient à la postérité de la femme, donc Jésus-Christ, on appartient à Jésus-Christ. Alors, c'est les deux lignées, depuis cette époque-là, ont toujours continué à se perpétuer et ils vont se perpétuer jusqu'au retour du Christ. Alors, ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est que pour ceux que ça intéresse, là, dans Internet, il y a un site web qui s'appelle Christian Answers, qui contient beaucoup de renseignements sur des passages difficiles, surtout concernant le créationnisme. Alors, il y en a un qui a été traduit en français. Ils ne sont pas tous traduits en français. Il y en a beaucoup qui sont en anglais sur ce site web-là. Mais ceux qui ont été traduits en français valent la peine d'être imprimés. Voyez-vous, c'est là, ça a à peu près 8 pages. Et le titre de l'article est le suivant, « D'où vient la femme de Caïn? » Alors, la semaine dernière, on l'avait lu au complet. On ne reprendra pas ça cette semaine, mais ce qu'on va faire, la leçon avait été prévue pour donner une leçon, en fin de compte, on s'est rendu compte que ça en prenait deux. On avait passé presque toute la leçon sur la question de qui était la femme de Caïn. Quand on regarde le premier verset de ce qu'on étudie aujourd'hui, autrement dit, on avait passé presque toute l'heure de la semaine dernière sur le verset 17a. Bon, souvent, on prend cette façon-là de dire, quand on coupe un verset en deux, souvent on va dire 17a, 17b. 17a, c'est « Caïn connut sa femme ». Alors, la question que beaucoup de chrétiens se sont déjà posés, ou des personnes qui lisent la Bible peuvent se poser, peuvent dire, OK, vous affirmez qu'il y a eu un homme et une femme qui ont été créés directement par Dieu et non le produit de l'évolution. Alors, on sait que la Bible nous a appris que ce couple-là avait eu deux enfants. Un qui s'appelait Caïn, l'autre s'appelait Abel. On sait que Caïn a tué son frère par jalousie concernant l'offrande qu'ils avaient offerte. Donc, Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que ça représentait les œuvres, autrement dit, les fruits de la terre. Tandis que l'autre, c'était vraiment un animal qui avait été sacrifié et que on croit qu'Abel avait déjà appris par son père la nécessité de présenter un animal, le sang. Et Dieu avait accepté son... Alors, on se souvient que si il y en avait deux, ils ont eu deux enfants, ça faisait quatre, il y en a un mort, qui restait? Logiquement, il resterait une personne à part de son père et sa mère. Alors que le verset 17 dit que Caïn connut sa femme. Alors, qu'elle sort, elle, cette femme-là. Et l'auteur que je vous dis dans le texte de d'où vient la femme de Caïn, l'auteur fait la remarque suivante. Quand il y a eu, en 1925, aux États-Unis, il y a eu un gros procès qui s'appelait le procès Scopes, parce que à cette époque-là, on avait commencé à vouloir enseigner l'évolution dans les écoles. Les chrétiens s'étaient opposés à ça, et le mouvement social était devenu tellement important que ça s'est ramassé en cour. Et là, l'avocat qui défendait la Bible, il y avait un autre avocat qui défendait, bien entendu, l'autre. Alors, celui qui défendait la Bible, l'autre avocat, lui a posé des questions concernant la femme de Caïn. Et malheureusement, je pense que cette personne-là ne s'était pas assez préparée pour répondre aux questions. Alors, il a comme bloqué, je ne sais pas, ça m'a jamais préoccupé, ce genre de questions-là, ce genre de réponses-là qu'il a donné. Alors, bien entendu, ça n'a pas resté là. Le procès c'était un procès qui a été suivi aux États-Unis, un peu comme aujourd'hui, on suit les élections américaines. Mais à l'époque, le procès Scopes, c'est devenu l'affaire internationale, le national aux États-Unis. Alors, bien entendu, quand tu as ce genre de réponse-là face à toutes sortes de questions, ça, c'est pas trop fort pour en faveur de la Bible. Mais il faut dire que, OK, après ça, ça a été comme arrivé aux États-Unis comme de quoi que, bon, les chrétiens ne savent pas trop comment répondre à ça. Mais c'est pas resté là, parce qu'il y a d'autres personnes. Carl Sagan a écrit assez récemment un livre qui s'appelait Contact. C'est devenu un best-seller. C'est devenu un best-seller du New York Times. Quand le New York Times prend un livre puis il dit « ça, c'est un best-seller », vous pouvez être sûr, ça va se vendre par dizaines, centaines de milliers. Alors, Carl Sagan, la job qu'il a faite dans son roman, c'était de mettre une femme de pasteur là-dedans, à laquelle on revenait un petit peu avec les mêmes questions que l'avocat du procès Scope. Et qu'est-ce que vous pensez que l'auteur fait? Il fait les gorges chaudes encore une fois, parce que la femme du pasteur, se voyant poser la question, ne savait pas comment répondre. Il dit, vous voyez? Dans le fond, l'idée, c'est comme, il est en train de dire au monde, vous voyez, on lui pose des questions, tout ce qui est de plus simple, ça ne sont même pas capables de répondre. Alors, l'auteur faisait la remarque suivante, il dit, c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui même encore, beaucoup de personnes se feraient poser cette question-là, ils ne sont pas capables de répondre. Pourtant, il y en a des réponses. Et c'est ça qu'on a vu un peu la semaine dernière. On va les reviser rapidement. Alors, ce que ça l'a amené quand le procès Scopes a arrivé, puis on dit bon, mais si t'es pas capable de répondre, puis tu dis qu'elle s'est mariée, donc ça impliquerait qu'il y avait une autre race d'hommes, des races d'hommes dont on ne dit pas d'où ils proviennent, qui étaient là, parce que ça dit qu'il y avait une femme. Je vous dis, vous savez pas où qu'elle vient. Alors, il fallait qu'il n'y ait d'autres. Alors, voyez-vous, ça l'amène un autre type de choses dans les Écritures et ça fait un lien aussi avec l'évolution. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait comme entraînement, comme effet d'entraînement, là. Mais les Écritures nous enseignent que si on ne fait pas partie de la descendance d'Adam et d'Ève, on ne peut pas être sauvé. Alors, ça élimine automatiquement la question qu'il y avait d'autres races d'hommes qui étaient présentes au moment de Caïn et d'Abel. Alors, si c'est vrai, et l'auteur l'affirme, parce qu'il prend des versets, que seuls les descendants d'Adam et Ève peuvent recevoir le salut. Alors, on va aller voir dans Romains, chapitre 5, verset 12. Romains, quand on dit qu'il y a des réponses, il y en a des réponses. Mais les versets qu'on va vous nommer, là, faudrait que pour nous, on sache tout ça par cœur. Pour que quand quelqu'un nous amène un argument, qu'on soit capable de développer scripturairement une réponse à ce qu'ils nous disent. Romains 5, 12, ça se dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul homme, c'est qui ça, cet homme-là? Là? C'est Adam. Alors, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alors, Romains 5, 12, on pourrait passer des heures à en parler. C'est un verset important, c'est un verset qui dit beaucoup de choses. Après ça, on va aller en voir un autre. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Ça dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, on parle du premier Adam. Qui est qui? Le premier homme qui a été créé par Dieu lui-même. Et on parle du second Adam. Dans les Écritures, quand on parle du second Adam, on fait référence à Jésus-Christ. Alors, on va aller voir aussi, on est dans le même chapitre, on n'a pas besoin d'aller très, très loin. On va aller voir aussi les versets 21 et 22. Ça nous dit, « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Voyez-vous le lien qu'on est en train de faire? Si tu n'es pas un enfant d'Adam et d'Ève, ou d'une descendance d'Adam et Ève, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça que ça dit les versets, là. Parce que ça dit bien, verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, le second Adam. » Romains 3, 23, ben ça c'est... Qui ne connaît pas ce verset-là, hein? Romains 3, 23, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » S'il y avait une autre race d'hommes présente au moment où Caïn a connu sa femme, c'était une race d'hommes qui n'était pas sous la condamnation. N'est-ce pas? Suivez-vous le raisonnement? Oui. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes qui sont de la lignée des descendants d'Adam et Ève sont tous condamnés, sont tous privés de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Romains 3, 23, ça veut dire qu'on est tous condamnés, on est tous sous la condamnation directe de Dieu, que si on meurt dans cet état-là, on s'en va en enfer. Alors, si tout le monde a péché, puis que la seule façon de s'en sortir, c'est en Christ, il faut qu'on soit de la descendance d'Adam et Ève. Voyez-vous, ces petites choses-là, si on ne les raisonne pas correctement, ça peut amener l'introduction de fausseté dans le système du salut. Et autre chose, on va aller voir un autre verset. Voyez-vous, ça fait quand même 1, 2, Romains 5, 1 Corinthiens 15, Romains 3, 23, puis Actes 17, 26. On va aller voir Actes 17, 26. On fait ça rapidement, mais c'est pour dire que quand on veut défendre les Écritures sur une doctrine en particulier, il faut faire l'effort d'apprendre les versets. Pour être capable de démontrer à d'autres que oui, la Bible elle-même donne des réponses aux questions qu'on se pose. 17, 26, « Il a fait que tous les hommes... » Regardez bien ce que dit le verset. « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, tous les hommes, sans exception, sont sortis d'un seul sang, et c'était le sang de qui? Adam et Ève. Habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Aussi, les Écritures nous disent, dans Genèse 2, verset 7, qu'au commencement, il n'y avait qu'une seule femme et un seul homme. Genèse 2, 7. Dans Genèse 3, 20, ça nous dit que Ève était la mère, ça dit, elle a été la mère de tous les vivants. Alors, ça élimine cette fausse conception qu'ils ont amenée de dire que il devait probablement y avoir une autre race d'hommes parce qu'on n'était pas capable de répondre d'où qu'elle venait la femme. Alors, il y en a qui ont dit, et si vous suivez leur raisonnement, ça vous emmène loin. Là. Ça vous emmène loin. La réponse, elle se trouve dans les quatre versets qu'on vient de voir, les quatre ou cinq versets qu'on vient de voir, Romains 5, 1 Corinthiens 15, Romains 3, Actes 17. Et la réponse se trouve aussi dans Genèse, chapitre 5, verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, il engendra des fils et des filles. On est en train de parler de celle que Ève considérait comme le remplaçant de son fils Caïn. Et le texte nous dit que ça faisait 800 ans, qu'Adam avait déjà 800 ans. Et le Seigneur avait dit « Multipliez et remplissez la terre ». En 800 ans, pensez-vous que vous avez eu le temps d'en avoir des enfants? La Bible dit qu'ils n'ont eu, Romains 5, c'est-à-dire Genèse 5, verset 4, « Tous les jours qu'Adam vécut fut dur de 900 ans, puis il mourut. » 5, c'est-tu 5, 4 ou 5, 6? OK, c'est 5, 7, excusez, j'ai pris le mauvais verset. Mais 4, t'as bon aussi. 7, vécu après la naissance d'Enoch, 807 ans, il engendra des fils et des filles. Alors, ça nous dit que, dans le verset 4, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, depuis le début, c'était passé beaucoup de temps. Quand la Bible nous dit que Caïn s'est marié, il nous dit, après quelque temps, ils offrirent des offrandes. Il ne mentionne pas la durée du temps. Donc, à quelque part, entre le moment de la mort de Caïn, c'est-à-dire la mort d'Abel, et il y a eu du temps, et il y a eu des enfants. Donc, la seule solution possible, il faut y aller par raisonnement. Les Écritures ne nous disent pas, à partir du moment que tu lis les Écritures, tu n'as plus de tête. Le Seigneur nous a donné une raison pour qu'on soit capable de déduire. Donc, à quelque part, si on a eu des enfants entre le moment de la création et le moment où Adam a eu 800 ans, la seule solution possible, c'est que Caïn a marié sa sœur, une de ses sœurs, ou une de ses enfants de ses sœurs. Parce que 800 ans, c'est long. Alors, quelque part, la réponse, c'est que Caïn a marié sa sœur ou sa nièce. Mais, quelque part, Dieu, quand il avait créé, avait dit que tout était bon. Il y en a qui vont amener l'argument que dans Lévitique, Dieu dit que tu ne devrais pas avoir de mariage consanguin. Autrement dit, on ne se devrait pas de se marier avec nos frères, nos sœurs, dans la proche parenté, parce que avec le temps, ça peut produire des infirmités dans la descendance. Mais combien de temps s'était passé depuis le début de la création et le moment où Dieu a dit à Moïse ce commandement-là, de ne plus avoir de mariage consanguin? N'as-tu qu'il faut pas m'avancer des chiffres? 2500 ans. Si vous regardez sur la carte qu'on a en bas, là, regardez là, dans la colonne, au moment, combien de temps s'était passé au moment de l'apparition de Moïse, vous allez voir que c'est passé 2500 ans. Autrement dit, au début, Dieu a créé, il a dit tout était bon. Donc, la chute avait amené une certaine corruption du génome ou des gènes humains. Mais plus le temps avance, plus cette corruption-là est grande. Donc, à 2500 ans d'existence, le Seigneur a dit, tu ne marieras plus ton frère, ta sœur, à cause du fait que le péché étant entré dans le monde, il ne pouvait plus le faire. Alors, ce n'est pas un argument pour dire, OK, Moïse a dit ça, donc Dieu se contredit en disant, il permet qu'il marie sa sœur, puis un peu plus loin, il dit, tu ne marieras pas ta sœur. Il faut tenir compte de ces événements-là. Alors, dans Lévitique, chapitre 18, verset 20, le Seigneur commence à donner des ordres sur les mariages consanguins. Alors, c'était une dégénérescence cumulative, on pourrait dire, que là, il était rendu un moment où Dieu fallait qu'il dise, « Faites plus ça parce que vous allez avoir des enfants infirmes, des enfants malades, des enfants... » Alors, on dit, un petit peu, l'autre semaine avant, on avait étudié dans Genèse, dans le chapitre 4, que Caïn, après sa condamnation par Dieu, était parti dans le pays de Nod. Alors, il y en a qui croient qu'il a connu sa femme-là, mais il peut l'avoir connue. Parce que les Écritures, quand ils utilisent le mot « connu » dans les Écritures, quand ça parle qu'un homme a connu sa femme, c'est pas « il a fait connaissance ». C'est une connaissance intime, une connaissance, autrement dit, il a eu une relation avec sa femme. Alors, il a connu sa femme, ça dit « Caïn connu sa femme ». Alors, de deux choses, l'une, où il l'a connu au pays de Nod, où ça faisait partie de l'ensemble des enfants qu'Adam et Ève ont eu durant cette période de 800 ans, et il avait marié une des descendantes, soit une de ses sœurs, ça devenait automatiquement sa sœur, parce qu'il y avait un couple de parents, donc automatiquement ça devient sa sœur, ou ça devient ses nièces. Chose à remarquer, c'est Genèse 4, verset 3. Quand on regarde l'histoire des offrandes, comment l'histoire du meurtre est arrivée, c'est vraiment les mots qu'il faut peser. Au bout de quelque temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'était pas passé de temps entre le moment où Abel est mort et le moment où il est parti pour le pays de Nod et le moment où il a connu sa femme et le moment où il s'est installé dans le pays de Nod. Au bout de quelques temps, c'est une phrase qui peut vouloir dire énormément de choses. Quelques temps. Alors, la seule chose, la seule déduction raisonnable, c'est d'arriver à dire qui était la femme de Caïn. C'était un des autres enfants d'Adam et d'Ève. Pas plus compliqué que ça. Et il faut comprendre aussi que ce qu'on vous a dit tantôt, les versets qu'on vous a nommés, sont importants à les retenir. Romains 5, 12, Romains 3, 23, 1 Corinthiens 15, versets 21, 22, versets 45, Actes 17, 26. Et la réponse, on la trouve dans Genèse 5, qui nous dit qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Alors, ça vous fait quoi? 5, 6, 7 versets à retenir. Puis avec ça, vous êtes capable d'avoir un système de défense des Écritures. Si celui qui s'était fait poser des questions au processcope aurait répondu intelligemment, ben ça n'aurait pas dégénéré cette histoire-là. Encore aujourd'hui, ceux qui veulent faire les gorges chaudes des Écritures vont utiliser « Ah, la femme de Caïn, c'est qui ça? Elle sort de où, elle? » Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, les gens disent « Ah, oh, ils croient quelque chose, mais ils ne sont pas capables de défendre les choses sur lesquelles ils se... » Autre chose, on avait commencé la semaine dernière, aller un petit peu plus loin. Voyez-vous, on avait passé une heure sur 17. Ah! Oh! Maintenant, on va essayer de passer à peu près 25 minutes sur de 17B aller jusqu'à la fin. Alors, on va aller voir que, à partir du verset 17, qu'est-ce que ça dit? Il a bâti une ville, il a donné un nom à cette ville, et le verset. Une des choses qu'on se doit de remarquer dans le verset 17 et 18, et les autres versets un petit peu plus loin, c'est de voir, dans le fond, il y a trois efforts qui est fait par l'homme pour chercher à se atténuer, pas s'en débarrasser, parce que Dieu avait dit qu'il était pour connaître certains effets de son péché. Alors, mais l'homme cherche à atténuer les condamnations que Dieu lui a données. Et un des efforts qui est amené pour l'homme pour atténuer les effets de la malédiction, c'est de défier l'autorité de Dieu, l'activisme et sa postérité, dans les versets 17 et 18. Il s'est bâti une ville alors que Dieu lui avait dit qu'il serait vagabond et errant. Est-ce qu'on peut voir là-dedans, à quelque part, de la défiance de l'autorité? Ben oui. Dieu lui avait dit qu'il serait vagabond et errant. Il lui dit, non, m'installe, bâtis une ville, moi. Alors, c'est vraiment une manière de se débarrasser de son sentiment écrasant de culpabilité. C'était de se lancer, de continuer à défier l'autorité de Dieu, de se lancer dans l'activisme. N'est-ce pas ce que les hommes font encore aujourd'hui? L'activisme, ça veut dire que, tu sais, on dit dans les Écritures, les hommes ne tiennent pas compte du temps de Noé, ils construisent, ils pensent au mariage, ils pensent à toutes sortes d'affaires, ils restent dans ce bon monde, ils pensent pas que quelque part tu vas traverser. Les gens se lancent dans l'activisme, autant Caïn, en se lançant dans une construction de ville, et se lançait dans l'activisme pour oublier l'écrasante effet de la malédiction. Et dans les versets 17 et 18, on parle d'engendrer des fils et des filles. N'est-ce pas que c'est encore la même chose aujourd'hui? On défie l'autorité de Dieu, on se lance dans les activités, on oublie qu'il y a quelque chose au bout de bord, et on se préoccupe uniquement de notre descendance. On a des fils, des filles, on s'occupe de nos enfants, puis le reste, on oublie ça. Si vous regardez comment à Caïn agit, comment les gens agissent aujourd'hui, d'aller voir que c'est pas mal la même chose. Alors, l'activisme est aussi, dans le verset 16, ça dit, « S'éloignant de la face de l'Éternel et habitant dans la terre de Nod, à l'Orient des Nèdes. » Verset 19. Donc, on a vu que la manière pour l'homme d'atténuer certains effets de la malédiction, défier l'autorité de Dieu, l'activisme et s'occuper uniquement de sa postérité dans le monde matériel, dans le monde temporel. Verset 19 parle d'une autre manière que l'homme a d'atténuer les effets du péché, c'est son enfoncement dans le péché. Verset 19, « Lémec prit deux femmes. » L'une, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsila. Lémec était le septième depuis Adam dans la lignée de Caïn. Alors, il vient ici, le septième, vient introduire une notion qui n'a pas changé depuis le temps, qui existe encore aujourd'hui, la bigamie et la polygamie. Alors, il ouvre la porte à l'imitation par les autres de ce que lui avait décidé de faire. Dieu avait pourtant clairement établi les règles du jeu. Le mariage se devait d'être entre un homme et une femme, et ceci pour la vie. Alors déjà, en faisant ça, en prenant deux femmes, il créait un mauvais exemple et il s'enfonçait dans le péché. Dans Genèse 2, 24, le Seigneur avait dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors déjà, l'activisme, la rébellion face à Dieu et de t'occuper uniquement de tes enfants, à ça vient s'ajouter un enfoncement dans le péché. Troisième chose qu'on doit de constater, donc le troisième effort pour se débarrasser ou atténuer certains effets de la malédiction, c'est la distraction dans l'activité culturelle, versets 20 à 22. Adam enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Verset 21, le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, engendra Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Qu'est-ce qu'on voit dans ces trois choses-là? La fuite de l'homme face à son problème dans trois directions. Jabal, il s'en va dans la direction de l'agriculture et de l'élevage. On pourrait dire qu'il s'en va dans la voie de l'enrichissement. Parce qu'à l'époque, la manière de t'enrichir, c'était d'avoir du bétail. Les animaux, plus tu en avais, plus tu étais riche. On se souvient de l'histoire de Job. Job en avait plein, donc il était riche, plus riche de l'Orient, qu'on disait. Alors, quand tu t'en vas dans le domaine de l'agriculture de l'époque, Jabal s'en allait dans la voie de l'enrichissement pour tenter d'échapper aux effets de la malédiction. Jubal, lui, c'était la musique, les arts et la poésie. On pourrait développer ici comment on peut déterminer, parce qu'il dit, il parle de chalumeau, de la harpe, et dans l'original, les auteurs voient aussi un peu comme la littérature. Autrement dit, l'idée, c'est que l'homme cherche à s'évader de ses problèmes spirituels par les arts. La musique, les arts, la poésie, donc il choisit la voie du divertissement. C'est vraiment là, hein? Les trois. La voie de l'enrichissement, regardez aujourd'hui si ce n'est pas encore ça. La voie du divertissement, il y en a qui vivent juste pour s'amuser. Toutes les méthodes sont bonnes. Aller dans un spectacle, prendre un verre, prendre de la dope, n'importe quoi, tout ce qui lui amène un plaisir immédiat. Ils ne vivent que pour ça. Et la troisième, Tubal-Caïn, on parle d'instruments, forger des instruments, donc c'est vraiment l'industrie. Autrement dit, la voie de l'accomplissement. Chercher à s'évader du problème spirituel que l'on a par l'accomplissement dans les différents domaines que le commerce, l'industrie, les choses que la vie nous permet de développer. Dans les versets 23 et 24, on voit l'enlisement qui se fait dans le péché. On sait ce que ça veut dire, s'enliser. Je me souviens une fois, j'étais à l'île d'Orléans, puis il y avait un camion qui avait été, c'était au printemps, pas comme ici, puis il s'était reculé dans la cour. Puis le terrain était mou. Puis il avait commencé juste à s'enliser un petit peu sur le terrain. Puis le gars, pas été brillant, ben, au lieu de s'organiser pour avoir quelqu'un pour le sortir immédiatement de là. Il a commencé à peser sur le gaz. Moi, puis Lucien, on regardait par la fenêtre. On se dit, bon, il était en train de s'enliser. S'enliser, ça veut dire que tu voyais le pneu descendre dans le bout. Et il y a un temps que là, quand ça a descendu de 6 pouces, oublie ça, parce que tu sortiras jamais de là. L'enlisement dans le péché, ça veut dire que si tu maintiens ta vie, ton train de vie, tu vas continuer. Et on le voit par les versets 23 et 24, c'est vraiment un enlisement, parce que les mecs disaient à ces femmes, « Adam est ici, là. Écoutez ma voix. » Alors, il parle avec autorité à ces femmes. « Femmes de l'Émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et l'Émec 77 fois. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a dit qu'il protégerait Caïn s'il y a des gens qui voulaient le tuer. Lui a dit, ben voyons, si Dieu permet qu'il protège Caïn, lui qui a tué son propre frère, moi comment je tuerais quelque part? 77 fois, il prend pour acquis que Dieu va le protéger dans son péché. Alors ici, les descendants de Caïn sombrent dans la vengeance disproportionnée et impitoyable et dans l'autosuffisance. Une vie sans crainte de Dieu. Quand tu dis des choses pareilles, autrement dit, je vais tuer tant que je voudrais, puis Dieu me doit de me protéger, parce que, pas pire que Caïn a bien tué son propre frère. Tu sais. C'est un peu l'idée. Alors, c'est vraiment l'enlisement dans le péché. Les propos de Lémec révèlent un très grand orgueil, un esprit qui a soif du sang. Voyez-vous, son père est... Ça l'amène à s'en aller encore plus dans la voie de la violence. On voit qu'il y a une fierté de son esprit criminel, du « j'ai tué un », et il y a une très grande inconscience quant à la protection divine qu'il croit que Dieu lui doit. Il semble vouloir indiquer que tous ceux qui se placeront à travers de son chemin goûteront à sa violence meurtrière. N'est-ce pas que cette mentalité-là existe encore de nos jours? Si tu te trouves dans mon chemin quand je cherche à monter quelque part, il y en a qui sont prêts à aller jusqu'à t'éliminer. Ça existe de nos jours. Il suffit de regarder le monde de la pègre qui prennent cette règle-là quasiment mot à mot. Dans Genèse chapitre 9, verset 6, le Seigneur avait dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Alors, Lémec s'enorgueillit dans son péché. Ça, c'est un autre principe. Quand on s'enlise, il vient un temps que le péché, non seulement on le pratique, mais on s'en fait un orgueil. Voyez-vous, Philippiens, chapitre 3, verset 19 dans le Nouveau Testament, il parle des non-élus, il dit, « Leur fin sera la perdition. » Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Aujourd'hui, les Écritures dénoncent certains péchés comme étant des péchés que Dieu hait, littéralement. Et les gens sont fiers, ils se promènent dans les rues et ils se pavanent dans leurs péchés. N'est-ce pas que c'est encore la même chose? Ça n'a pas changé. L'homme est encore le même qu'il était à l'époque. Le Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde contre l'esprit de vengeance et aussi le manque de pardon dans Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Hey, nous, c'est important à dire, quelqu'un m'a offensé une fois. Si je suis bon, on va peut-être te pardonner. Peut-être, ça dépend jusqu'à quel point tu te mets à genoux, là. Et si combien de fois? Il demande ça au Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Il dit, « Vas-tu lui pardonner jusqu'à 7 fois? » On sait que 7, dans le chiffre des Écritures, représente souvent le chiffre de la perfection. Comment dire, jusqu'où je vais aller dans le pardon des autres? Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70 fois, c'est fois. Il y en a qui vont dire 7 fois 7, 49, 490. Je me rouvre un petit carnet. Puis quand tu vas être rendu à 490, là, oublie ça, man. Je te pardonne plus. Pas ça que le Seigneur voulait dire du tout. 77 fois 7 fois, ça veut dire le chiffre de la perfection, autrement dit, ça ne s'arrêtera jamais. Il faut que tu pardonnes toujours. Est-ce qu'on l'oublie parfois dans nos propres vies? On a de la misère à pardonner. Hein? Faut le reconnaître. Faut d'abord le reconnaître. On a de la misère à pardonner. Le Seigneur, il dit combien de fois, Pierre, il dit combien de fois? Cette fois, il se trouvait généreux en disant cette fois. Là. Seigneur, il dit 70 fois cette fois. Autrement dit, garde, tu n'as pas compris encore. Faut que tu pardonnes tout le temps. Maintenant, dans les versets 25 et 26, on a la lignée pieuse. On a beaucoup parlé de la lignée impie, avec toute la manière qu'elle se comporte, sa tentative de s'évader, son enlisement dans le péché et tout cela. Maintenant, la lignée pieuse, elle, est-ce que dans le verset 25 et 26, on voit que la lignée pieuse, elle, va se comporter de façon différente? Verset 25, on parle d'une postérité spéciale. Adam connut encore sa femme. Pas comment il en a eu, mais il semble qu'il en a eu un gros lot. Elle enfanta un fils, il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alors ici, on assiste à un acte de foi de la part de Ève. L'hostilité du serpent envers la femme est contrecarrée. Bien sûr, quand le malin a vu que Caïn avait tué Abel, probablement qu'il a pensé de où elle va venir là, ta postérité. Quand Dieu fait une promesse, il sait de ce qu'il dit, il sait de ce qu'il fait. Et alors on voit ici Ève qui change son attitude dans Genèse 4:1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça ici, on ne remarque pas ça quand on lit. J'avoue que quand j'ai préparé ma leçon, l'auteur, il fait la remarque, il dit, remarque l'attitude de Ève en Genèse 4:1 et remarque-la maintenant. Et si on ne porte pas attention, on ne le voit pas. Alors dans Genèse 4:1, ça dit, voyez-vous le « je »,« j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Les versions Sterval et David Martin traduisent « j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Certains auteurs croient que l'expression pourrait se traduire par « j'ai acquis un homme l'Éternel ». Certains auteurs défendent que grammaticalement, dans l'hébreu, « j'ai acquis un homme l'Éternel », ça voulait dire que Caïn, elle croyait que Caïn pouvait être le Messie promis, déjà dans la première génération. Alors, Ève prendrait alors la promesse de Genèse 3:15 à la lettre, et elle peut avoir pensé qu'elle avait donné naissance au Messie. Et ça, c'est une interprétation que soutiennent la tradition juive et Martin Luther. Quand même pas un deux de pique non plus. Alors, certains croient que ça pouvait dire que quand elle a eu Caïn, elle croyait que c'était le Messie qui arrivait par elle. Alors, le fait d'avoir perdu Abel ne décourage pas Ève et elle persiste à croire à la promesse divine, mais l'accent de Genèse 4:1 est sur elle-même. J'ai. Alors que le verset 25 du chapitre 4, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, voyez-vous, l'accent, je ne sais pas si vous le voyez, Dieu m'a donné. Dans le premier, dans Genèse 4:1, c'est qu'elle se voit comme j'ai acquis un homme qui pourrait être le Messie, et là, elle dit, l'accent change parce qu'elle dit, elle a perdu son fils, mais elle dit quand même, Dieu s'est servi d'elle. Alors, verset 25, la dernière partie du verset, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Alors, c'est intéressant de voir ça. Alors, le verset 26 du 17 eut aussi un fils, et on l'appela du nom d'Énoch. C'est alors, quand on parle de la lignée, on a vu tout à l'heure que la lignée impie s'enfonce de plus en plus dans la rébellion, dans l'activisme, dans le péché. Elle s'enfonce, elle s'enlise dans le péché, et elle s'enlise aussi dans l'orgueil, la violence et la présomption, en croyant que Dieu est obligé de te protéger, même si tu tues quelqu'un. Et ici, on a la lignée qui, elle, commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et quand on lit « commencer à invoquer le nom de l'Éternel », on ne peut pas interpréter ça comme voulant dire juste « ils ont commencé à prier un peu ». Invoquer le nom de l'Éternel, ça veut dire placer toute ta confiance en lui. Alors, le nom Énoch, semble-t-il, évoque la fragilité et la faiblesse humaine. Et c'est durant sa vie. Peut-être qu'il y a un lien à faire entre le nom de la personne. On sait que dans l'Ancien Testament, les noms ont une importance considérable. Je viens de m'acheter deux livres là, sur les noms de Dieu. Il y en a un que je viens d'acheter ça, là, c'est « 100 noms de Dieu expliqués ». Autrement dit, des fois on en dit « El Olam »,« El Shaddai »,« le Dieu qui guérit », tout cela. Il y en a, on en connaît quelques-uns, mais il y en a plus d'une centaine. Quand on commence à invoquer le nom d'une personne, ça révèle sa nature profonde, son essence, qui il est. Alors les noms de Dieu, c'est le reflet d'une des caractéristiques de notre grand Dieu. Et s'il y en a 100, ça veut dire que Dieu a beaucoup de facettes. On peut prier le Dieu guérisseur, Jéhovah Rapha. On peut, et on pourrait prendre, c'est plein d'enseignements, les noms de Dieu. On pourrait faire une série d'enseignements juste sur les noms de Dieu, et après, on connaîtrait mieux notre Dieu. Parce que il y a un aspect ou un autre de sa personnalité qui est reflété dans son nom. Alors, c'est plus qu'une invocation dans le sens de commencer à prier. C'est vraiment le début d'un vaste mouvement de culte au Seigneur, donc un mouvement d'adoration, de se souvenir de Dieu, d'avoir une crainte de Dieu dans ta vie, de continuer à faire confiance à Dieu et aussi de continuer à lui offrir des sacrifices. Donc, la crainte de Dieu pour la lignée du Seigneur recommence à s'installer dans les cœurs par la grâce de Dieu. Et vous, on a la lignée impie, on voit dans quelle direction elle s'en allait, avec toutes les caractéristiques qu'elle a, et on voit la lignée pieuse, elle, qui s'en va dans la direction vraiment de la crainte de Dieu, de le mettre présent dans ta vie et de régler ta vie à la lumière de tout ce qu'il te révèle dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 10, versets 13 et 14, on parle d'invoquer le nom. Romains 10, versets 13 et 14. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Invoquer le nom du Seigneur, ça veut dire qu'on sait qui il est, sa personne. On sait qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, sa nature, sa personnalité, son œuvre lorsqu'il est venu sur cette terre. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand le jugement va arriver, on va invoquer le nom du Seigneur parce qu'on le connaît. On sait qui il est. On sait qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et le verset 14 dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Voyez-vous, ici, c'est un appel à l'évangélisation. Autrement dit, comment ils vont pouvoir invoquer le nom de Dieu si personne leur parle du nom de Dieu, si personne leur révèle la personne de Jésus-Christ? C'est ce que ça dit. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien sûr, dans prêche, je pense qu'on pourrait inclure le témoignage personnel, toute façon de répandre qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait, c'est tellement de choses, on peut en parler des heures et même des siècles, l'éternité va nous permettre de découvrir les différentes facettes de tout cela. C'est tellement d'une richesse incroyable. Moi, je pense que des fois, je lisais l'introduction ce matin avant de m'en venir sur les noms de Dieu, et il mentionnait qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir un Dieu trop petit. Trop petit dans le sens que pour bien invoquer les noms de Dieu, ne faudrait-il pas qu'on les connaisse en premier? Et combien de personnes seraient capables de me dire « Nomme-moi les 100 noms de Dieu qui me les nommeraient? » Ça révèle quelque chose, que les Écritures sont extrêmement profondes, extrêmement riches, et qu'on les connaît peut-être pas autant qu'on se devrait. Même pas peut-être, qu'on ne connaît sûrement pas autant qu'on se devrait de les connaître. Alors demandons à Dieu de faire le ménage dans nos vies, d'éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile, tout ce qui est futile, et de se concentrer sur ce qui est important. Parce que dans les Écritures elles-mêmes, nous le disent ce qui est important. Là où on trouve notre bonheur, c'est en lui. Partout ce qu'on cherche ailleurs, c'est une perte de temps. On ne trouvera jamais notre satisfaction là. Mais en Christ, en Dieu, on va trouver notre pleine satisfaction. Alors, deux applications. Premièrement, rappelons-nous que la lignée impie ira toujours en empirant, défiant l'autorité de Dieu, se concentrant toujours sur les affaires terrestres de plus en plus. Et comme si l'au-delà n'existe pas, le ciel, l'enfer n'existe pas, on vit sur la terre, on s'amuse, on travaille, on s'occupe de nos enfants, tout reste au niveau terrestre et temporel. L'activisme, les hommes oublient qu'ils sont condamnés, puis quand tu le rappelles, ils n'aiment pas ça. Laisse-moi, j'ai pas le temps. Je suis en train de construire ma maison, là. Je suis en train de réparer mon auto, je suis en train de... Il va y avoir 56 000 raisons, mais ça demeure toujours au niveau qu'il ne veut même pas entendre parler. Donc l'activisme, l'espérance qu'on place souvent dans notre descendance, c'est donc vrai ça. Parce que quand on a des enfants et qu'on n'est pas sauvé, sur quoi on veut concentrer notre vie? On veut concentrer notre vie uniquement sur le bonheur de nos enfants. Il n'y a rien de mal là-dedans en soi, mais pas si on place ça en avant de Dieu. Nos enfants, on se doit de les aimer, mais Dieu, Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il a dit qu'il fallait l'aimer, lui, par-dessus ton père, ta mère, tes enfants, par-dessus. Puisqu'il dit que celui qui n'aime même pas plus que son père, sa mère, ses enfants, n'est pas digne d'être mon disciple. C'est fort ce qu'il dit là, c'est très, très fort. Alors, l'espérance qu'on place dans notre descendance, l'enfoncement dans le péché, voyez-vous, l'on suit la lignée impie, la distraction dans les affaires temporelles, l'enrichissement, le divertissement, l'accomplissement personnel et l'enlisement dans la violence, la présomption et l'orgueil. Et drôle pareil, parce que ce que je vous dis là, hier, je lisais un article sur Internet. Il parlait de la tendance future des prochaines années, selon des personnes qui étudient la société. Et c'était toutes des affaires centrées sur soit la musique. Alors, le titre, c'était « Drug, Sex and Rock and Roll ». Autrement dit, il y a des gens qui ont fait des études économiques et regardé que, dans le fond, le développement des activités humaines pour les prochaines années, si tu veux t'enrichir, faut que tu t'en ailles dans « Sex, Drugs and Rock and Roll ». Et là, il donnait des chiffres, là. Tant de milliards en telle année, tant de milliards en telle année, tant de milliards en telle année. Tu voyais la croissance, là. Autrement dit, le domaine de drug, sex and rock and roll, ça devient démontrer ce qu'on vient d'étudier ce matin. Les gens vont s'en aller de plus en plus dans la facilité, dans le temporel, dans le terrestre, et dans l'amusement, et dans toutes ces choses-là. Et, bien entendu, tout cela va amener un développement de la violence, un développement de la présomption. Dieu n'existe pas, donc je peux faire ce que je veux. Et l'orgueil, l'homme est de plus en plus orgueilleux. La lignée, impie, on sait ce que ça en va. On sait comment elle était au début, on sait comment elle est maintenant, et on sait comment elle va demeurer jusqu'au retour du Christ. Et la deuxième application, louons le Seigneur pour sa grâce souveraine et sa promesse que par sa grâce et la venue du Messie, les hommes peuvent se réconcilier avec Dieu et invoquer son saint nom avec toutes les bénédictions que cela implique, recevoir le pardon des péchés, bien entendu, et la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et exalté à tout jamais. Amen.